VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, un nouveau dialogue inter-burundais débutera demain dans le pays, a annoncé aujourd'hui Monseigneur Justin Zoï Saba, président d'une commission ad hoc mise sur pied par le gouvernement burundais, mais à laquelle l'opposition annonce déjà son refus d'y participer. Selon Monseigneur Zoï Saba, un premier débat réunissant quelques 400 délégués des confessions religieuses, de la société civile, ainsi que des organisations de jeunes et de femmes, plus des membres de l'armée et de la police, aura lieu à Kirundo, dans le nord-est du pays. D'autres réunions suivront dans des localités comme Bujumbura dans les jours à venir, a ajouté le président de la Commission nationale du dialogue inter-burundais, la CNDI, créée en septembre dernier. Et toujours concernant le Burundi, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué, le diplomate onusien dénonce des violences sexuelles commises par des membres des forces de sécurité et aussi une forte augmentation des disparitions forcées et des tortures dans le pays. Écoutons à ce propos Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide.
Nous sommes entrés dans une phase où il y a plusieurs groupes armés. On ne sait pas qui est derrière quelle opération. Et c'est en cela que nous sommes inquiets. Et c'est pourquoi j'ai depuis toujours réclamé qu'il y ait une enquête indépendante sur toutes ces atrocités pour qu'on puisse en identifier les auteurs et les déférer devant la justice. Ceci dit, je me suis également réjoui comme le haut commissaire de la récente demande faite par le ministre de la Justice au procureur général de Bujumbura d'enquêter sur les allégations de Charnier. Je crois que c'est la bonne voie et aujourd'hui je ne peux qu'applaudir à la décision des autorités d'accepter un dialogue inclusif avec toutes les parties.
Adama Dieng, conseiller spécial de l'ONU pour la prévention du génocide. La RDC veut poursuivre l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga, condamné par la Cour pénale internationale et transféré en septembre dernier à Kinshasa, qui devait être libéré aujourd'hui à l'issue de sa peine. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Il ne sortira pas, a souligné M. Tambwe Mwamba, indiquant que Germain Katanga a été impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves que celui jugé par la CPI. La justice congolaise s'intéresse notamment à son rôle présumé dans l'assassinat de 9 casques bleus dans l'est de la RDC en 2005, a ajouté le ministre Mwamba. Au Gabon, début aujourd'hui des opérations de révision des listes électorales en vue des élections présidentielles et législatives prévues au second semestre 2016, initiative annoncée par le ministre de l'Intérieur, Paco Mumbele Boubeya. Le président Ali Bongo Ondimba, élu en 2009 après le décès de son père Omar Bongo Ondimba, briguera un nouveau septennat. Pour sa part, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné vendredi candidat unique du Front de l'opposition pour l'alternance pour cette présidentielle. Mais sa candidature à l'issue d'une procédure à huis clos est déjà contestée par plusieurs dirigeants de cette alliance.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, 4 fidèles tués ce matin dans un attentat suicide contre une mosquée de l'extrême nord. 5 jours après une attaque similaire qui avait fait 12 morts dans une autre mosquée de la région. C'est ce qu'on apprend de sources sécuritaires. L'attentat a visé une petite mosquée du village de Ngetchewe, dans une région ciblée régulièrement par les attaques des islamistes nigériens de Boko Haram, dont les bastions sont situés de l'autre de la côté de la frontière au Nigeria. Afrique de l'Ouest maintenant, Burkina Faso, après le premier ministre du Mali, Modibo Keïta, ce week-end, le président béninois Thomas Boniayi s'est rendu aujourd'hui à Ouagadougou pour apporter son soutien au pays après les attaques terroristes qui ont visé plusieurs hôtels et restaurants de la capitale burkinabé. Une 15aine d'étrangers, dont un enfant de 9 ans, figure parmi les 29 personnes d'au moins 14 nationalités décédé dans l'attaque djihadiste, selon le procureur du Burkina Faso. Plus de détails avec Zoumana Ronogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Dans son message à la nation le lendemain des attaques perpétrées par des terroristes en plein cœur de Ouagadougou, le président du FASO a invité les Burkinabés à se mobiliser. On écoute le président Roch Marc Christian Kabore.
Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Ma conviction est établie que dans l'unité et la cohésion nationale, nous sortirons victorieux de cette guerre.
Et pour manifester la solidarité du peuple malien au Burkinabé attristé, le premier ministre du Mali est arrivé ce dimanche à Ouagadougou. Pour lui, il faut mutualiser les efforts pour venir à bout du terrorisme. Suivons le premier ministre Modibo Keïta.
Nous avons des structures de concertation entre nos deux pays, notamment la Grande Commission de coopération. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Voilà donc ce que nous devons faire ensemble en rapport avec les autres pays de l'espace sahélien.
Sur le plan de l'enquête judiciaire, les choses avancent vite, ce qui a permis au procureur du FASO de donner la liste et les nationalités de 22 des 29 victimes. En parcourant cette liste, on retrouve des noms à consonance musulmane et des noms à consonance chrétienne. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité en Afrique maintenant. En Syrie, le groupe djihadiste État islamique a enlevé au moins 400 civils, dont des femmes et des enfants, après un assaut sur la ville de Deir ez-Zor, où il a tué au moins 135 personnes. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, 40 civils, dont les enfants, ont péri dans des raids aériens sur Raqqa, le bastion du groupe djihadiste État islamique dans l'est de la Syrie, toujours selon l'OSDH. Accord nucléaire iranien maintenant, le président de l'Iran, Hassan Rouhani, a affirmé que ceux qui étaient sceptiques sur l'accord nucléaire avaient tous tort. C'était lors de sa première conférence de presse hier après l'entrée en vigueur de l'accord samedi. Ces sanctions adoptées depuis 1979 par les États-Unis, 2006 par l'ONU et 2007 par l'Union européenne ont eu des répercussions considérables sur l'économie iranienne. Réaction côté américain, l'accord sur le nucléaire iranien représente la victoire de la diplomatie sur la guerre, a déclaré le président américain Barack Obama. Écoutons à ce sujet le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et actuel secrétaire général de l'Université de Yaoundé.
C'est une étape très importante parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même 37 ans qu'il y a eu prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran en 1979. Donc je pense que c'est un retournement diplomatique important, mais surtout ça a des retombées naturellement économiques de grande envergure également. De nouveaux produits pourront rentrer en Iran et l'Iran pourra également certainement être sur le marché financier international vu différemment. Il y a aussi la question du pétrole iranien, bien sûr, qui va être de nouveau disponible pour la vente internationale. Bon, c'est normal que les républicains n'apprécient pas par principe ce que font les membres de l'administration démocrate. Mais dans le cas précis, je crois que le président Barack Obama a voulu inscrire son pays dans l'histoire avant de partir comme il l'a fait avec Cuba.
Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun et actuel secrétaire général de l'Université de Yaoundé. Toujours à propos de l'Iran, 3 des 4 Irano-Américains libérés samedi par Téhéran dans le cadre d'un échange contre des Iraniens poursuivis aux États-Unis sont maintenant en Allemagne dans une base militaire américaine. Parmi eux, Jason Rezaian, correspondant du Washington Post en Iran, qui dit se sentir beaucoup mieux. Et puis les États-Unis ont rappelé hier leurs efforts pour retrouver l'ancien agent du FBI, Robert Levinson, disparu il y a 9 ans en Iran. Et c'est quelques heures après la libération de 5 Américains dans ce pays. Robert Levinson, 67 ans, a disparu dans de mystérieuses circonstances en mars 2007, alors qu'il était déjà retraité du FBI depuis une dizaine d'années sur l'île de Kish dans le golfe arabo-persique. Les États-Unis ont à plusieurs reprises demandé des explications à l'Iran sur cette disparition, mais Téhéran a toujours déclaré n'avoir aucune information sur le sort de Robert Levinson. Et pour terminer, l'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'est présentée dimanche aux Américains comme la candidate la mieux armée pour succéder à Barack Obama. C'était lors d'un débat télévisé où elle a dû repousser les multiples attaques lancées depuis sa gauche par un Bernie Sanders, son principal rival. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de